France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marianne Henriquez. J'ai lu votre livre, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, et je dois dire que j'étais absolument bouleversé par cette lecture, par la manière dont vous écrivez cette société argentine, violente et déchirée suite aux différentes crises qu'elle a connues, mais également la manière dont vous construisez le recueil d'un monde crescendo, de nouvelle en nouvelle, on s'enfonce un petit peu plus dans l'horreur, et j'ai trouvé ça très habile et magistral, la manière dont vous les avez assemblées les unes après les autres.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un endroit ensoleillé pour les personnes sombres, aujourd'hui dans votre Book Club, c'est le titre français du dernier recueil de 12 nouvelles signées de l'autrice argentine Mariana Henriquez. On y calme des fantômes quand on y arrive, on s'y métamorphose pour le meilleur et pour le pire, souvent le pire. Certains visages se paralysent, des peaux se griment mystérieusement de bleu. Le culte de la jeunesse et du corps ferme oblige les femmes à se transformer infiniment jusqu'à vouloir réincorporer des kystes qu'on leur enlève. La peur y est maîtresse partout, la hantise, l'effroi ronge et dirige. Le sifflement d'une entité infectieuse suffit à rappeler les traumatismes anciens. Bref, rien n'est tranquille dans ce livre. Mariana Henriquez est de passage à Paris et elle est notre invitée. En fin d'émission, on jouera au grand jeu des pages musicales à chercher de la musique dans ce texte. Il y en a. On est ensemble pour une heure. Accrochons-nous. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Mariana Henriquez. Vous êtes de passage en France, notamment pour une soirée à la Maison de la Poésie ce soir, à Paris, lundi 13 octobre, puis une rencontre à la Villa Gilet de Lyon, demain soir, mardi 14 octobre, et puis vous serez en librairie à Nantes le jour d'après. Pour l'instant, vous êtes ici avec nous en studio, on est ravis de vous recevoir. Soyez la bienvenue dans le Book Club de France Culture, et bonjour à vous, Pascal Faugère, vous allez interpréter les propos de Mariana Henriquez vers le français. Ici, tout commence toujours par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On fait connaissance avec nos invités en leur demandant quels livres se sont trouvés sur leur parcours. Éventuellement, est-ce qu'il y avait des livres dans les endroits où ils ou elles ont grandi? Souvent, vous dites, Mariana Henriquez, qu'il y a quelque chose de très important pour vous, de la circulation entre la lecture et l'écriture. Quand on vous demande des conseils, vous dites il vaut mieux commencer par écrire ce que vous avez aimé lire ou ce que vous aimeriez lire. Est-ce que de tout temps, votre goût ou votre rapport à la lecture s'est branché sur votre goût et votre rapport à l'écriture?
Quand j'ai commencé à lire, en ma casa no había ningún tipo de limite.
Alors, quand j'ai commencé à lire, il n'y avait aucune limite sur ce que je pouvais lire.
No había literatura infantil.
Il n'y avait pas en fait de livres pour enfants. Ou pour les jeunes.
Así que rapidamente,
ce qui fait que rapidement, je me suis jetée sur la bibliothèque de mes parents. J'ai pris d'assaut cette bibliothèque. Et mes premières lectures ont été très très variées.
Desde Mark Twain et Tom Sawyer,
de Mark Twain avec Tom Sawyer,
hasta rapidamente. Baudelaire,
jusqu'à exemple, rapidement, Baudelaire, par exemple, que ma mère me lisait.
Cumbres borrascosas d'Emily Bronte.
Et Emily Bronte.
Un escritor alemán que se llama Michael Ende.
Aussi un écrivain allemand qui s'appelle Michael Ende.
Por supuesto, rapidamente, lo argentino.
Et évidemment, très rapidement, les Argentins, Cortázar, Borges, García Márquez aussi.
Fue extremadamente variado.
Et ça a été très, très varié.
Cuando empecé a escribir en la adolescencia,
quand j'ai commencé à écrire à l'adolescence, j'étais très influencée par les écrivains nord-américains, surtout Bret Easton Ellis,
William Burroughs, Muy callejero.
Que je trouvais très punk, très Et c'était la fin des années 80, début des années 90.
En
Argentine et partout dans le monde, c'était la crise du sida. Il y a eu des écrivains français qui, pour moi, étaient très importants, comme Hervé Guibert ou Philippe Collard. C'était un peu comme pour moi des stars de rock hein, dans ces moments très sombres en fait. Et ça a été des influences plus grandes en fait que la littérature d'épouvante.
Además de Stephen King, que fue,
évidemment, en plus de Stephen King, hein, qui a été et est le grand classique de la littérature que j'aime.
Je voudrais relever deux choses dans votre réponse, Mariana Henriquez. D'abord, l'expérience que vous racontez, mais très brièvement, de la lecture à voix haute de Baudelaire par votre mère. Ça n'est pas anodin. Pourquoi est-ce que votre mère vous lisait de la poésie? Est-ce que vous avez un souvenir précis de cette expérience? Et la deuxième chose que je retiens, c'est le lien que vous faites très fort entre l'épidémie sida et la littérature. Alors, en convoquant Guibert, mais comment ça s'est articulé, cette expérience de vie collective très forte et de mort, et votre rapport à la lecture?
Mi madre me leía poesía en general.
Alors, ma mère me lisait de la poésie, hein, en général, Garcia Lorca, Miguel Hernández. Je ne sais pas bien pourquoi, je crois qu'elle aimait la poésie, hein, surtout pendant les maladies de l'enfance, la varicelle, etc. Ma mère était professeure de français. Elle est professeure de français. Je ne sais pas pourquoi le livre dont je me souviens, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas je me souviens des Fleurs du Mal parce que ça m'avait fait peur. Ça m'a paru pervers et je ne comprenais pas bien pourquoi ma mère me lisait ça. Et comme déjà des livres d'épouvante, donc quand je me lisais les litanies de Satan, je me disais c'est quoi? Et puis après, évidemment, plus grande, j'ai commencé à le lire comme quelque chose qui était plus loin que Satan. Mais c'est vraiment ce livre-là dont je me souviens pour l'impact qu'il a eu sur moi. Elle en lisait sûrement d'autres.
Et alors, si on passe à la deuxième expérience que vous racontez, Mariana Henriquez, l'expérience très forte pour la génération des années 90 avec l'épidémie SIDA et le rapport à la littérature, comment vous pouvez le relier?
Era el momento, era mi... De mi generación, digamos, el momento en que salíamos
pour
a la vida.
Ma génération, en fait, hein, c'était le moment où on commençait à vivre, où on commençait à aller dans la rue, où on commençait à vivre des expériences de sexe, des expériences extrêmes. On allait dans les rues. Et à la différence de d'autres moments historiques pour la jeunesse, tout ça a été teinté de mort, hein, parce que jusqu'à 1995, quand est apparu le Poptel et qu'il y a eu une espèce de palier sur la contamination, les gens mouraient. Et il y avait donc évidemment un impact de la culture gay, punk, de rue, et tout ce qui était le plus désirable, hein, en fait, c'était très dangereux.
Entonces, que tu primera experiencia
donc,
con el sexo
que avoir une première expérience du sexe qui est si proche de la mort, c'est quelque chose qui marque, bien sûr.
Entonces, en ese momento, claro, leíamos a...
Il y avait une littérature du sida qui était très contemporaine, et il y a assez peu de moments où ça s'est passé. On retrouvait aussi le sida dans le cinéma. Et donc, pour nous, à ce moment-là, le film comme Les Nuits Fauves ou La Nuit Sauvage, était très très importante pour la littérature qui s'écrivait alors, surtout en France et aux États-Unis.
Sí, fue una educación sentimental y literaria.
Ça a été une éducation sentimentale et littéraire à la fois, oui.
Comme vous dites, c'est assez rare que se rejoignent de manière extrêmement pressante et urgente une expérience sociale et sa retranscription dans la littérature contemporaine et dans les romans, Mariana Enríquez. Est-ce que, là, on va parler de textes où il est question de métamorphose, de corps, de cohabitation très forte entre le sexe et la mort, aussi l'idée de circulation épidémique qui sont à la fois liées à la maladie mais aussi à la mémoire. Est-ce que ce que vous venez de dire là, avec autant de force, l'éducation sentimentale, sexuelle et littéraire qui irait tout d'un coup et qui serait liée au sida, ça conditionne quelque chose de votre écriture encore aujourd'hui? Ou c'est un raccourci de dire ça?
Oui,
je crois, sans aucun doute.
Je n'ai jamais quise, de la même manière que non, tengo intenciones de hablar de lo sociopolítico.
De la même manière que je n'ai pas du tout envie de parler du sociopolitique de manière réaliste. Je ne voulais pas non plus parler de ces sensations de manière réaliste. Et mon premier roman, qui a été publié en 1995, prend son inspiration dans toutes ces années. Et on n'y parle pas de maladie, en fait. Il y a une sensation de mort, de paranoïa, mais le sida n'y est pas. Parce que je veux écrire avec mon propre langage qui a à voir avec l'imaginaire, avec le genre. Et pour moi, ce n'est pas un genre qui est transparent avec la réalité. Mon dialogue avec la réalité, c'est d'essayer de l'interroger, essayer de l'interpréter à travers mes influences culturelles et mes différences culturelles. Et mes références culturelles ne sont pas en fait celles auxquelles on pourrait penser. Il s'agit de témoignages, de souvenirs. Je préfère raconter tout ça à partir d'un autre point de vue.
Quelle est la place qu'occupe la lecture aujourd'hui dans votre vie quotidienne, concrètement?
On lit tout le temps.
Je lis sans arrêt.
Je
passe beaucoup de temps à lire et j'essaye de me ménager du temps pour lire 2 heures par jour, disons. Parce que c'est effectivement une manière de me divertir. Aujourd'hui, j'écris, ou en tout cas plus exactement, j'essaye d'écrire parce que je voyage beaucoup.
Mais
je préfère lire de la poésie parce que je n'écris pas de poésie.
Et donc,
ça m'est utile de deux manières, un peu comme une écoute de la musique, de manière abstraite. Et puis d'un autre côté, ça veut dire que dans la prose que j'utilise entre un certain lyrisme.
Oui, on y viendra tout à l'heure, mais il y a des traces de la poésie, comme il y a aussi des traces de, peut-être d'images plus mythologiques dans une prose qui touche voilà, à l'écriture de la nouvelle et du roman. On va parler de ce recueil de nouvelles, Mariana Enríquez, juste après cette chanson d'une musicienne française qui se fait appeler Miette. Le morceau s'appelle Not the End. Il est sorti sur son disque Ausländer en 2022. Et elle avait choisi ce mot allemand qui veut dire étranger pour parler de la façon dont sa musique et ses chansons parlent du rapport étrange à l'étrangeté, à l'étranger, en soi et chez l'autre.
This is not the end.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une morte peut-elle vivre ? Vaste question dans votre book club cet après-midi. Comment qualifier l'existence du fantôme de la mère de la narratrice de la première nouvelle qui ouvre votre dernier recueil traduit en français ? Mariana Henriquez, est-ce qu'un fantôme, ça vit ? En tout cas, ça demande d'être calmé, d'être apaisé, ou à défaut, de raconter son histoire. Car l'aspect horrifique ou fantastique de vos nouvelles n'est jamais gratuit. Il vous permet de rendre compte d'une horreur passée, par exemple du régime de torture en Argentine, sans jamais le dire exactement, ou de la trace laissée par un viol sur plusieurs générations. Il vous permet de rendre compte aussi du temps révolu. Le temps, je vous cite, « cette monstruosité écrasante, la seule chose qu'on ne peut pas arrêter ». Il vous permet aussi de rendre compte d'un corps qui se modifie irrémédiablement et plus violemment, semble-t-il, pour les femmes. Il vous permet enfin de rendre compte de l'inquiétante étrangeté de certaines expériences physiques liées à la sexualité, à la maladie, à la perte ou à la ville. On y viendra. Un lieu ensoleillé pour personnes sombres apparu aux éditions du Sous-Sol. Dans une traduction, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de Anne Plantagenet. Aujourd'hui, c'est Pascal Faugère qui traduit vos propos vers le français. On parle donc de ce recueil avec vous. Ce n'est pas votre premier recueil de nouvelles, Mariana Henriquez. Cet ensemble de textes qui se répond, qui se succède par des échos dans les titres, par des échos dans les motifs. Comment est-ce que vous le travaillez ? Comment ça se passe concrètement pour vous, l'écriture d'un recueil de nouvelles ?
Elijo en général los cuentos por un aire de familia.
Alors en fait, le fil conducteur, hein, c'est des nouvelles qui ont à voir avec la famille.
Más cuentos de los que publica.
Je n'écris pas plus de nouvelles sur un recueil que ce que je publie.
Pero hay una serie que de alguna manera forma un libro.
Il y a des séries qui forment directement un recueil.
En este caso, en mi último libro,
dans le cas de mon dernier livre,
el aire de familia era cierta melancolía.
C'était le trait de famille,
el fantasma,
c'était
también,
la mélancolie, le fantôme.
Es una idea más melancólica. Es la idea más melancólica dentro
le fantôme, c'est vraiment quelque chose de très mélancolique, en fait, dans la littérature de terreur, pas seulement pour le souvenir des morts, mais aussi parce que c'est le souvenir du passé. L'idée, en fait, voilà, le fantôme de l'enfance, le fantôme d'un traumatisme, d'une culpabilité, c'est quelque part le passé qui vit encore au présent. Et donc, la majeure partie de ces nouvelles sont à la première personne, et pas tous. Et ce sont à ce moment-là des femmes un peu plus âgées, intéressées par leur adolescence, mais il y a un côté un petit peu plus mature qui n'a pas seulement à voir, je crois, avec mon âge, mais qui a aussi à voir avec l'évolution, en fait, des nouvelles proprement dites. Les personnages grandissent.
Il y a ce titre dès le départ, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, c'est le titre évidemment traduit en français, Mariana Henriquez, mais qui nous place dans un lieu. Et en effet, moi j'ai été frappée dès la première nouvelle où vous dites, la narratrice dit « je vais d'abord vous parler du quartier ». Et puis on voit très rapidement le voisinage, les immeubles, presque les rues, il y a quelque chose de très concret, de très palpable. Et ça revient dans différentes nouvelles où on peut presque voir, alors qu'il se passe des trucs super bizarres, super étranges, très, très irréels, mais il y a quelque chose de très ancré dans la ville. C'est bien que je me suis dit « ah oui, il y a vraiment l'idée d'écrire des nouvelles sur des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette idée du lieu dans la littérature, Mariana Henriquez ?
Los lugares, para mí, son personajes.
Les lieux, pour moi, en fait, ce sont des personnages.
Je crois, en général, qu'en el terror contemporáneo, ou en el cuento fantástico,
en général, en fait, dans les nouvelles de terror ou fantastique contemporaine,
es necesario para provocar el efecto de lectura. c'est que los lugares sean muy reconocibles.
Nécessaire pour provoquer un effet, en fait, que les lieux soient très reconnaissables. Et je ne pense pas seulement, quand je dis ça au lecteur, je pense à moi aussi. Quand j'écris, j'ai besoin de reconnaître un lieu. Et pour moi, le plus contemporain, c'est de traiter en fait les lieux comme des personnages. Et ce quartier de la première nouvelle, c'est un personnage et il apparaît comme un fantôme. Hein. C'est un fantôme qui est très en colère en fait. Et ce quartier est un personnage qui a en même temps peur et en même temps furieux. Hein. Et c'est vraiment le quartier qui produit ça.
Il
y a un autre endroit qui est un château où vont. Alors, un château qu'on appelle. C'est comme ça qu'on appelle, en fait, ces grandes maisons, ou ces maisons où on n'a pas vraiment de château, en fait, hein, en Amérique latine, mais on a des grandes demeures. Et donc là, il y a des fantômes très agressifs. Et c'était un lieu qui avait été utilisé par les militaires comme prison. C'est un lieu qui existe et c'est un lieu très, très particulier. Il se trouve en plein milieu de la Pampa. C'est une demeure, en fait, de style gothique, mais qui est complètement en ruine. Et les fantômes qu'on voit, en fait, dans la nouvelle, ne sont pas les fantômes de la littérature gothique. C'est des fantômes qui ont à voir avec nos sociétés contemporaines. Hein? C'est un fantôme qui est à la fois un tortionnaire et aussi qui peut être une victime. Hein? Et ça, c'est un exemple, en fait, des lieux personnages avec lesquels j'aime travailler. Hein. Et effectivement, pour moi, ils ont l'air d'être des personnages parce qu'en fait, ils le sont vraiment.
Oui, parce qu'on entend bien l'idée de la maison hantée. Vous appeliez tout à l'heure beaucoup de références littéraires où on voit ce que ça peut être, le traitement, y compris romantique, de la maison hantée dans la littérature, Mariana Enríquez. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces nouvelles, c'est que ça, souvent, c'est quand même à l'échelle d'un quartier, il y a des voisinages, on peut porter son regard sur différentes maisons, enfin, il y a vraiment quelque chose du collectif. Est-ce que ça vient aussi de la manière dont vous-même vous traversez certains endroits de certaines villes en Argentine et avec ce qu'on pourrait appeler, oui, des vibrations de certains lieux en fonction de ce qui s'est passé et éventuellement de très violent ou de caché ou de recouvert? Est-ce que ça viendrait de votre expérience de ces lieux-là?
A mí me encanta experimentar los. A ver, hay algunos lugares que visité.
Alors, j'ai expérimenté, mais il y a des lieux, bien sûr, que j'ai visités pour écrire ces nouvelles. Il y a d'autres lieux qui m'obsèdent pour différents motifs. Hein, Los Angeles, par exemple. Hein, et il y a une nouvelle qui se passe à Los Angeles. Parce que je crois que la relation, en fait, qu'a l'Amérique latine avec les États-Unis est une relation très complexe, amour-haine. Et je dirais que la production culturelle, comme l'impérialisme culturel américain, se retrouve à Los Angeles, hein, qui est un lieu de pouvoir, et en même temps, Los Angeles est un lieu qui produit des fantômes, hein, parce que quelque part, les films sont des projections de lumière, en fait, hein, comme les fantômes. Et c'est aussi un lieu d'extrême inégalité, qui en cela est très proche de l'Amérique latine, lui ressemble beaucoup. Et pour moi, c'est un lieu personnage qui, lorsque je l'ai visité, visité, a confirmé absolument tout ce que je croyais et j'ai vraiment en fait voulu écrire. Il y a Barcelone aussi. Barcelone, c'est la ville où la majeure partie des Argentins de classe moyenne émigrent. C'est une espèce d'Arcadie. Parce que je crois qu'en fait, les Argentins devraient plutôt se rendre à Madrid, parce qu'à Barcelone, on parle le catalan. Mais ça n'a pas d'importance, c'est là qu'ils se rendent. Et donc, pour moi, il y a ce côté, en fait, une inspiration, un lieu auquel on aspire, mais qui finalement, en fait, se défait. Hein. Et en Argentine, c'est très différent.
Buenos Aires, par exemple, est une grande ville avec laquelle je parle.
Buenos Aires est une très grande ville avec laquelle je converse beaucoup. Mais dans ce livre, il y a beaucoup de villes plus petites où la vie est très différente. Et je voulais aussi sortir du caractère urbain de la ville et parler, en fait, de ces petites villes ou de ces villages. Hein, et je dirais que la crise dont je parle constamment a touché ces villages et ces petites villes de manière très particulière.
Hein?
Et voilà, par exemple, il y a des lieux où le train ne passe plus, et donc par conséquent, ce sont des lieux qui petit à petit ont été abandonnés. Et donc, dans cette nouvelle, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont restés là. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait donc croître en cet endroit qui était désolé et abandonné.
Et bien, notamment des fantômes, et en effet, on sent à quel point il y a une relation très très forte entre tous ces lieux que vous décrivez, Mariana Enriquez, et la présence des fantômes. On va écouter à ce propos la poétesse et romancière française Cécile Coulon parler des fantômes, juste après un extrait de votre texte.
Je porte plus de fantômes que d'expériences de vie. Je pense que toute personne qui écrit un livre, quel que soit le domaine, il y a une sensibilité ou une hypersensibilité. Ou en tout cas, moi j'ai la sensation d'être traversée par des émotions, mais par des émotions qui sont pas forcément les miennes. Et peut-être que quand j'étais plus jeune, j'étais traversée par des émotions de fiction, à travers la littérature, le cinéma, la télévision, ou la peinture. Et maintenant, ce serait peut-être plus par les gens que j'ai en face de moi, ou que j'écoute, ou par la voix des autres. Mais moi, je crois qu'un fantôme n'est pas quelque chose, ou quelqu'un, ou le reste de quelqu'un qui fait peur. Je ne suis pas angoissée. Moi, je suis beaucoup plus angoissée par la chair et l'os que par le fantôme. Je crois au contraire que c'est bon d'avoir des lieux qui sont hantés, d'avoir des livres qui sont hantés, d'avoir des histoires qui ne cessent d'être transmises. Parce que c'est ça, le fantôme, c'est l'assurance que la transmission existe. Alors, elle fait un peu peur quand c'est la nuit, évidemment, et que ça s'assoit au fond du lit, mais heureusement qu'ils sont là.
Les fantômes, je l'ai appris, se mettent en colère. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, s'ils pensent. Peut-être plutôt qu'ils répètent. Et les répétitions semblent des réflexes sans pensée. En revanche, ils parlent et donnent leur avis et ont des accès de mauvaise humeur. Ma mère se promène dans la maison. Parfois, elle sent ma présence et parfois non. Et de temps en temps, on dirait que sa colère revient. Celle de son cœur meurtri. Celle de la calostomie définitive et de l'humiliation. Elle qui avait été si élégante. Je me souviens qu'elle pleurait. L'odeur. C'était pire que la souffrance physique. Parfois, alors, elle crie. Par moments, ce sont des cris de pure rage. Je connais plusieurs façons de la calmer qui n'ont pas lieu d'être énumérées ici. Le plus intéressant, c'est ce qui a commencé à se passer dans le quartier. Alors, je me suis rendu compte que d'une part, je n'étais pas folle. Je l'ai pensé, quiconque voit sa mère morte monter un escalier le pense. Et que d'autre part, elle n'était pas le seul fantôme.
La présence des fantômes vibre tout au long des 12 nouvelles de votre recueil, Mariana Henriquez. On entendait la voix de Cécile Coulon dire que finalement, les fantômes, c'est l'assurance qu'une transmission existe. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'incarne la présence fantomatique, mais pour le meilleur et pour le pire dans votre travail littéraire, cette transmission, cette présence du passé dans notre présent, n'est pas là que pour nous raconter de belles choses. Et il y a une espèce de conversation très concrète avec les fantômes. Ils vous servent à quoi dans les histoires que vous racontez, Mariana Henriquez, ces fantômes ?
Je pense en el fantasma como una... Primero como lo que es, ¿no? Como es una...
Je pense à un fantôme d'abord
algo
pour
ce qu'il est,
quelque chose qui se reproduit,
qui est
condamné à faire toujours la même chose et à dire, en fait, voilà, je suis là, hein, comme le passé qui ne veut pas cesser, qui ne veut pas partir, quelque chose qu'il est impossible de consoler. Et les histoires de fantômes classiques, le fantôme apparaît dans ces histoires ou raconte quelque chose, même s'il ne le fait pas en parlant. Et par exemple, on va avoir le fantôme d'une femme qui apparaît avec son fils, qui dit, peut-être pas directement, mais qui dit « Ils m'ont tué, ils m'ont laissé dans la rue, ils m'ont arraché mon fils. » Par exemple, et d'une certaine manière, elle demande justice ou de ne pas être oubliée. Peut-être qu'elle n'arrivera pas d'ailleurs à obtenir l'une des deux choses. La justice, impossible, parce que la justice ne peut qu'être rendue lorsque la personne est en vie. Et la présence dans le souvenir est aussi quelque chose d'assez difficile, parce qu'on ne se souvient pas qui était cette personne parce qu'elle est trop loin dans le temps ou parce que sa mémoire a été effacée ou son nom a été effacé. Donc, pour moi, l'inquiétude que provoque le fantôme, c'est cette impossibilité qu'il y a de le consoler et de nous consoler nous-mêmes. Ça, d'un côté, et puis, du point de vue psychologique et sociologique, comme disait Cécile Coulon, c'est effectivement ce qui se transmet, ce qui vient du passé, ce qui se transmet, mais on a également le traumatisme, la culpabilité, le souvenir qui tourmente, et c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui continue à vivre dans le présent. Si on prend un traumatisme, par exemple, qui peut être personnel ou social, ça s'est passé, mais pourtant, le traumatisme, quand il se répète, on a l'impression qu'on le revit, et on le revit, en fait, physiquement. Hein. Et lorsque le fantôme revient, c'est la même chose, c'est-à-dire il revient quand il y a quelque chose qui a à voir avec la violence économique ou un traumatisme même qui s'est produit sur la nature. Et donc, le fantôme comme idée qui permet à notre présent d'avoir... en tête, quelque part, entre guillemets, quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Hein. Et je pense à la réalité, en fait, avec ces fantômes.
Absolument. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, c'est une manière, cette littérature de l'imaginaire, on va dire, Mariana Henriquez, c'est une manière de penser concrètement ce que peuvent vivre des corps sociaux ou des sociétés violentées ? Est-ce que, finalement, c'est un outil, cette littérature, pour réussir à mettre des mots sur quelque chose qui est difficile à attraper, quoi, ce fameux retour répétitif d'un passé traumatique, qu'il soit politique, économique ou plus individuel, quand par exemple c'est l'expérience d'un meurtre, d'un enlèvement ou d'un viol.
Es que lo que yo creo es que la fiction est réaliste en tous ses aspects.
C'est que la fiction réaliste dans tous ses aspects, ou la non-fiction, le journalisme, la chronique, l'autofiction, ont une limite qui est justement celle de pouvoir imaginer ce qui va au-delà de ce qui est transparent dans la réalité. On ne peut, dans ces genres-là, ne révéler les choses qu'avec l'essai. Hein. Et je crois qu'il y a un certain préjudice quant au genre de l'imaginaire, la science-fiction, l'épouvante. On a tendance à penser que c'est des choses un peu triviales, juste de distraction, qui sont incapables de donner quelque chose sur le réel. Alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est une spéculation sur le réel, qui est en fait plus proche de la philosophie et de la sociologie que le reste de la littérature.
Et
c'est une manière de dire tout le temps. Que se passerait-il si, que se serait-il passé si, comment ça serait si, et si ce corps était soumis à des situations extrêmes? Évidemment, si on dit que ceci ne peut pas se passer dans la réalité, c'est nier le réel, en fait. Hein.
Me sorprende muchas veces como la société.
Ça me surprend souvent comment les sociétés comprennent que ces métaphores ne fonctionnent parce qu'elles n'ont rien à voir avec le réel, alors qu'on a un monde réel qui est plein de crimes et de guerres qu'on ne peut pas nommer.
Tenemos todos, no sé, en Europa tenemos todos los muertos de la Primera Guerra Mundial.
En Europe, on a tous les morts de la Première Guerre mondiale dans des fosses communes et sans nom. Au Mexique, nous avons tous les morts et tous les disparus de la guerre contre le narcotrafic qui ne sont pas davantage nommés. Et voilà. Et ça, c'est pour être un fantôme qui dirait, voilà, je veux avoir une tombe avec mon nom.
On va écouter la voix de Stephen King, vous l'avez cité déjà dans cet entretien tout à l'heure, Marie-Hélène Henriques, et vous le citez souvent comme une référence importante de votre écriture. Ici, il est au micro de François Bunel en 2013 et il parle de l'usage qu'il fait d'une certaine littérature horrifique pour penser notamment l'origine du mal.
D'où vient le mal? Est-ce que le mal vient de nous, de l'intérieur de nous? Est-ce que ça fait partie de l'équipement originel? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Vous savez, c'est très réconfortant de croire que le mal vient d'une force extérieure. Je crois que dans beaucoup de cas, le mal vient d'une faille en nous-mêmes. Et d'où vient cette faille? C'est autre chose. C'est très clair que nous avons quelque chose qui est mauvais dans la nature humaine. L'histoire nous le montre, mais de dire que ça vient du diable, je crois que c'est un petit peu trop loin. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu que l'inconscient existe, même au sens freudien. Il y a un mystère, vous savez, il y a un grand mystère là. Nous vivons nos vies à un niveau très prosaïque. Et puis on dort et nous avons ces rêves étonnants qui semblent venir de nulle part. Il y a quelque chose dans le sous-conscient de notre crâne, mais c'est une ressource dans laquelle il faut puiser. C'est pas un lac empoisonné qui doit être vidé, non, pas du tout. Gardez-le, il faut l'utiliser. Et c'est vraiment une partie intéressante de vous-même. S'il y a un Dieu, c'est là qu'il se trouve.
On entend la voix de Stephen King parler de sa recherche de l'origine du mal à travers la littérature, mais aussi l'usage qu'il fait de ses visions nocturnes, de ses rêves, qu'il semble douter que ce soit rattaché à l'inconscient. Peut-être sur ces deux questions-là, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous vous souvenez de vos rêves et est-ce qu'ils vous servent, ces rêves, Marianne Henriques, à produire des images qui sont très présentes dans vos nouvelles, des images très puissantes. Et d'autre part, est-ce que cette question de chercher l'origine du mal vous intéresse?
La búsqueda de l'origine du mal, ou non?
Yo en eso voy a estar en desacuerdo con el maestro.
Alors là, je vais être en désaccord avec mon maître.
C'est bien, c'est bonne nouvelle.
Entre autres choses, parce que le maître est nord-américain.
Parce que, entre autres choses, le maître est nord-américain.
Une culture et que
c'est une culture qui a beaucoup plus de difficultés avec l'inconscient et la psychoanalyse, et également avec le catholicisme.
Pour eso, a mí me parece que
c'est pour ça que ça me semble très intéressant que quand on écrit du fantastique et de l'épouvante, c'est intéressant de traduire. Il s'agit d'une traduction qui n'est pas seulement une traduction linguistique, c'est aussi une traduction culturelle. Hein? Par exemple, pour moi, la psychanalyse est quelque chose de fondamental.
Et
l'inconscient est quelque chose dont on parle constamment. Cependant, je n'utilise pas des images de mes rêves ou de mes cauchemars, parce que j'ai appris qu'ils étaient trop incohérents. En général, les images que je prends, je les prends bien plus de ce que je vois dans la rue et aussi de ce que j'écoute dans la musique.
La question de l'origine du mal...
La question de l'origine du mal n'est pas quelque chose qui me préoccupe du côté religieux. En ça, je suis d'accord avec Stephen King.
Je suis
tout à fait d'accord avec le fait de dire que les personnes qui font des choses mauvaises ou répréhensibles ne croient pas qu'elles font des choses mauvaises ou répréhensibles. Elles ont toujours une bonne raison. Et c'est fondamental pour comprendre la motivation humaine de faire le mal. Voilà, les gens justifient en permanence le mal et le fait de faire mal. Particulièrement actuellement, alors qu'on est tellement cruel, bêtement cruel dans les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça a l'air très commun, mais ça paraît être un espèce de champ de bataille et un lieu de destruction. Il y a des fois où on pourrait se demander si ça ne pourrait pas, en fait, être quelque chose qui finirait par se traduire en acte, hein, si ça se faisait en acte. Mais où en serions-nous, en fait? Le niveau de ce qui se dit et les justifications de méchanceté et d'actes cruels, hein, c'est énorme actuellement, tout ce qui se dit de manière violente. Hein, et c'est pour ça qu'on a la sensation que nous traversons un moment très difficile, alors qu'en fait, tout le mal qui se produit dans le monde n'est pas si différent que ça de celui qui se produisait à d'autres époques, mais en revanche, le discours est très différent, il est beaucoup plus agressif, et ce qui fait que nous faisons perpétuellement du mal.
On va écouter la voix de Théodore, auditeur du Book Club. Il vous a lu, Mariana Enriquez, et il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Mariana Enriquez. Dans ce recueil, les fantômes sont partout, la mort également. Et il y a une nouvelle qui m'a particulièrement touchée qui s'appelle « Cimetière de frigo » où la narratrice dit que les cercueils sont des boîtes dans lesquelles on enferme ce qu'on doit oublier pour aller de l'avant. Alors ma question est assez simple, la littérature a-t-elle pour vous cette même fonction consolatrice qui permet de faire le deuil, de vivre avec les morts et en quelque sorte d'avancer? Merci par avance pour votre réponse.
Merci à vous Théodore pour cette question. Mariana Enriquez, les cercueils comme des boîtes qui permettent l'oubli, est-ce que ça permet d'avancer, d'écrire de telles nouvelles?
Je vais décevoir un peu ici, le docteur.
Je vais décevoir Théodore un petit peu.
Je ne crois pas que la littérature en général
et la mienne la littérature en général et la mienne pas davantage ait une fonction de consolation. Je crois qu'elle a une fonction d'interrogation, d'inquiéter, de gêner
et de ne pas avoir de certitudes.
Et de ne pas avoir de certitude.
Je crois que ce que à moi, plus me, en ce moment, plus me, plus sens comme réel, respecto de ce que
je pense. Ce qu'aujourd'hui je sens le plus réel par rapport à ce que je sens, c'est l'absence de certitude.
Mes cuentos sont un peu.
Et donc, mes nouvelles, en fait, sont un peu comme ça. Ce sont des questions. Dans la nouvelle, elle pense qu'elle peut garder et les souvenirs et tout ce qui lui fait se sentir coupable dans un espèce de frigo qu'elle peut. Abandonnée et elle pense que ça va se détruire de manière complète, mais aussi totalement démentielle, parce qu'on ne sait pas quelle est la réalité.
Peut-être qu'une des choses qui traduit justement la permanence de l'incertitude et de l'intranquillité dans votre écriture, Mariana Henriquez, c'est la très grande présence de la métamorphose des corps. Il y a beaucoup de transformations des corps, les corps ne sont pas du tout figés, les identités ne sont pas figées, ils sont énormément soumises au temps, notamment ces identités. Et ces corps, il leur arrive plein de trucs tout le temps, y compris des choses très inimaginables, je disais en introduction, comme ça, le désir étrange d'une femme de réincorporer une sorte de corps étranger qu'on vient de lui ôter. Le corps est omniprésent dans vos nouvelles et vous produisez aussi des images. Elle est aussi très travaillée par l'idée de la métamorphose. On écoute un extrait de l'une de vos nouvelles.
Tous les oiseaux sont des femmes qui ont reçu un châtiment. Dans les mythes populaires de notre province, entre Rios, mais aussi Corrientes et Misiones, j'ai un livre qui situe chaque mythe en détail. La punition pour la désobéissance, la mauvaise conduite ou l'amour désespéré, et d'être changé en oiselle. Il existe des hommes oiseaux aussi, mais pas autant. Le Chingolo, par exemple, est un homme. C'était un chanteur qui se baladait sur un cheval blanc comme un knight, un chevalier en armure avec un luth. C'était le seul qui chantait dans le village et il désirait que la situation demeure ainsi. Un jour, un autre chanteur apparut, un vieil homme avec une guitare, et les gens apprécièrent beaucoup sa voix. Le blond à cheval ne le supporta pas. Il le provoqua et le tua. Dans le village, il n'y avait pas de place pour deux chanteurs. Il alla en prison, bien sûr, mais il se métamorphosa dans sa cellule et s'envola à travers les barreaux. Il a un toupet rouge, parce qu'à cette époque, les prisonniers portaient un calot coloré. Les destins des femmes sont bien pires. L'uruto, qu'on nomme aussi oiseau fantôme, sort uniquement la nuit, et quand il chante, semble pleurer. On raconte que c'était une princesse guarani amoureuse du soleil, abandonnée lorsqu'il monta au ciel, qui appelle son homme toutes les nuits. Son châtiment est sans fin, car le soleil réapparaît toujours. La Calandria était une jolie fille. Elle repoussa les avances insistantes d'un guerrier qui ne lui plaisait pas et fut transformée par Tupa en oiseau pour son attitude orgueilleuse et méprisante, n'étant plus désormais ni fille ni jolie. Le petit oiseau, qu'on connaît sous le nom de Chochi, était une autre jeune femme, tout aussi mariée, qui alla danser alors que son époux était malade et s'amusa tellement, passa un si bon moment, qu'elle oublia l'heure et quand elle rentra chez elle, il était mort. Sa punition, elle ne cesse d'appeler son mari, tandis qu'elle sillonne la colline sur ses petites pattes. Une autre, folle de musique, abandonna sa mère âgée qui mourut. Elle fut transformée en Chesi, une oiselle qui se lamente. Je pourrais continuer, mais vous voyez l'idée. Marcher sur les rives du Paraná et voir une bande d'oiseaux, c'est s'imaginer entourée de femmes châtiées, métamorphosées contre leur gré, suppliant de redevenir humaines. Le chant des oiseaux la nuit, lorsque la chaleur empêche de dormir, est un concert de pleurs solitaires et d'injustice.
Redonnons le nom de votre traductrice vers le français, Anne Plantagenet. C'est un extrait d'une des nouvelles contenues dans le recueil « Un lieu ensoleillé pour personnes sombres », Mariana Henriquez. Comment expliquez-vous la quasi-omniprésence de la transformation, de la métamorphose, de l'augmentation, de la modification des corps dans ces nouvelles dont vous disiez tout à l'heure qu'elles sont en effet reliées par la thématique de la famille, du lieu, des fantômes, mais le corps et le corps transformé est très très présent?
Primero me fascina, siempre me fascinó que la metamorfosis sea un mito.
Ça me fascine et ça m'a toujours fasciné que la métamorphose soit quelque chose qui traverse en fait toutes les mythologies. Hein. Ces mythes, en fait, dans l'extrait qui vient d'être lu, sont des mythes guarani du sud de l'Amérique latine et qui n'ont bien sûr jamais pu être influencés par la métamorphose des Grecs. Hein. C'est toujours la même chose, en fait. C'est le châtiment et la métamorphose. C'est une idée qui me fascine et je l'utilise. Mais pour ce qui est du corps, je crois que ma principale idée, et c'est vraiment le corps même de la femme et l'idée du châtiment. Depuis que j'ai la réalisation de mon corps comme quelque chose que je peux regarder, avec lequel je peux avoir du plaisir, qui a des odeurs. C'est un corps que j'ai toujours voulu modifier, en fait. Et ça, la modification dépendait de ce qu'on me disait qu'il devait être. Plus sensuel, plus mince, plus bronzé, plus voluptueux. Et je ne me suis sentie, et je crois que c'est le cas de la majeure partie des femmes, je ne me suis jamais sentie avec le corps conforme. Hein. Le corps de la femme subit beaucoup de métamorphoses. D'abord, il saigne depuis un âge assez jeune, et ça dure un certain temps. Et c'est très rare, en fait, qu'un animal perde son sang 5 jours dans le mois et ne meure pas. Hein. C'est quelque chose de rare. Ensuite, c'est un corps qui se modifie de manière brutale lors de l'accouchement, hein, que je n'ai jamais voulu connaître, et qui en plus subit à ce moment-là une mise en danger. Et ce corps je vis, lorsque le corps n'est plus fertile, vit encore une métamorphose. Qui est très brutale. Le cheveu devient plus fin, la peau devient plus sèche, et donc l'ensemble du corps dit qu'il s'avance vers sa fin. Et ceci mêlé avec le mauvais traitement culturel qui demande qu'on conserve une espèce de jeunesse éternelle avec donc tout ce qui va avec, hein, les vêtements, la peau, les odeurs. Hein, et jamais le corps n'a été si observé. Il n'a pas jamais non plus, il n'a eu tant de possibilités de changer, pas seulement à travers les cosmétiques transforment effectivement les gens avec des visages extrêmement similaires, hein, mais il s'agit d'un inconfort, en fait. Donc cette métamorphose qui ne cesse pas du corps de la femme, voilà, c'est un peu ce que je fais aussi avec les fantômes et leurs liens à la réalité.
Le book club continue. Et on va pas s'éloigner de tout ça ou pas complètement. Dans l'agenda du Book Club, tous les jours, on relaie ici des événements, des initiatives en rapport avec le livre, l'écriture ou la lecture. Vous pouvez d'ailleurs nous en informer via l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. J'en profite pour vous remercier pour vos messages récents envoyés à cette adresse. On voulait vous parler d'un salon qui s'appelle Sueur Froide, qui est le tout premier salon littéraire parisien dédié à l'horreur en toutes lettres et sous toutes ses formes. Il débarque à la Belle Villoise dans le 20e arrondissement de Paris le 1er novembre prochain, opportunément au lendemain d'Halloween. L'ambition de l'événement est d'accueillir les futurs visiteurs dans une atmosphère digne des meilleurs films d'horreur, paraît-il, ainsi que la vingtaine d'autrices et auteurs qui seront en dédicace. Voici quelques noms: Marc Falvo, Anthony Gallet, Meg Men, Frédéric Livins, Caroline Carton, Antoine Pietri ou encore Nelly Chadour. Romans, monographies, livres sur le cinéma d'horreur ou encore illustrations et BD. Il y aura même des livres-jeux qui seront au programme avec des rencontres pour ce salon ou cet événement qui s'appelle Sueur Froide. Il faut payer 5 euros pour rentrer. Mais je crois que si vous participez, eh bien, vous participez d'office à un tirage au sort et vous avez peut-être, ou je crois, forcément le droit à des cadeaux. Tout bénef. On mettra le lien sur la page du Book Club.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Dans tous les book clubs, on joue à un jeu à la fin de l'émission, Mariana Henriquez, de chercher de la musique dans les textes. On propose à nos auditeurs de jouer avec nous. Alors, il y a quelques évocations musicales dans vos textes et on va en lire un extrait. Mais surtout, à la fin, vous remerciez dans vos remerciements, vous remerciez les morceaux que vous avez écoutés. Vous dites à quel point l'écoute de la musique est quelque chose de très important dans votre processus d'écriture. On se quitte donc avec un extrait de votre livre, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres. La gare avait conservé d'anciens éléments et de plus récents. Les bancs verts anglais en bois, les tuiles, les murs blancs. Il y avait une exposition dans chacune des quelques salles et de grands objets dans le hall. Un vieux baby-foot, une carriole jouet. Le cheval était assez horrible. On aurait dit un vrai animal empaillé. Des vestiges de la gare, des petits drapeaux, des objets qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ignoraient le nom. Personne n'expliquait rien. Ce n'était pas une visite guidée. À l'intérieur, tout était plus sympathique. Les exposants, pour la plupart, étaient des femmes âgées, à l'exposition d'un homme qui travaillait le cuir et d'une adolescente présentant des portraits de Taylor Swift qu'elle avait réalisés. Ivana lui sourit et la fille lui tendit l'un d'eux qui représentait Taylor vêtu de noir avec un extrait des paroles traduites d'une chanson. « Si je suis morte pour toi, que fais-tu à mon enterrement ?» Un peu macabre, pensa-t-elle. Mais bon, les adolescentes pouvaient être sinistres.
We gather stones, never knowing what they'll mean. Some to throw, some to make a diamond ring. You know I didn't want to have to haunt you, but what a ghostly scene. You wear the same jewels that I gave you as you bury me. I didn't have it in myself to go with grace. 'Cause when I'd fight, you used to tell me I was brave. And if I'm dead to you.
Merci beaucoup, Mariana Henriquez, d'avoir été avec nous pour évoquer votre recueil de nouvelles « Un lieu ensoleillé pour personnes sombres » traduit par Anne Plantagenet pour les éditions du Sous-Sol. Et merci à vous, Pascal Fougère, d'avoir traduit les propos en direct au son. Aujourd'hui, c'était Éric Perruchot-Triboulet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier à Jeanne Léos. Pour continuer la conversation, je redis le mail lebookclub@radiofrance.com. Vous nous écrivez en ce moment, on est trop contents de vous lire, contente aussi. Et puis, bien sûr, la conversation continue sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandra Lajbegovic. Bon après-midi sur Culture.